Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en très bonne forme en ce vendredi 10 novembre. Alors le vent continue de s'agiter allègrement au-dessus du plateau, ça n'empêche pas de jeunes chevreuils d'imaginer des chorégraphies le matin, d'aller et venir, de tournoyer et ensuite de disparaître dans les sous-bois. Alors les objets nous permettent en fait des réflexions nombreuses, poussées. Les objets ont une place très importante dans la peinture, dans la littérature et bien sûr également dans nos vies, dans l'intimité de nos vies. Il y a longtemps, j'ai fait la connaissance d'une sociologue. Alors nous nous voyons de temps en temps quand son agenda très rempli le lui permet, et Véronique Dacier, puisqu'il s'agit d'elle, eh bien, avait soutenu une thèse passionnante qui s'appelait « Objets d'affection » et par ailleurs, elle avait précisé « Une ethnologie de l'intime ». Cette thèse, pour ceux que ça intéresserait, a été publiée. Elle avait décroché un prix, je crois que c'est Le Monde qui lui avait décerné, donc on peut trouver ce livre qui est vraiment très très intéressant puisqu'elle décortique en fait les raisons qui nous poussent à conserver des objets, pourquoi certains objets et pas d'autres. Qu'est-ce que tous ces objets racontent de ceux qui les ont possédés, aussi des liens qui nous ont unis à ces personnes qui ne sont plus là. Et ces objets semblent, eux, eh bien, contenir toujours une parcelle de ces êtres que nous avons aimés et qui ne sont plus là, à nos côtés. Et les objets sont les traces qu'ils laissent dans nos quotidiens. Alors Véronique, eh bien, vient de publié dans une maison d'édition qui s'appelle « D'une rive à l'autre », un nouvel ouvrage qui s'appelle « Les objets de mon père ». En fait, je pense, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler toutes les deux, mais elle a été sollicitée par une photographe, Valérie Gondran, photographe qui, en 2020, ça faisait 20 ans que son père était mort, s'est demandé quels étaient les objets qu'elle avait conservés de son père. Et elle a entrepris de les photographier. Et elle a demandé en fait à Véronique Dacier, eh bien, elle, de mettre en lumière la partie sociologique et qui va de pair avec ces objets, donc ce qu'ils disent de nous, ce que je disais un petit peu plus haut, et du lien que nous entretenons avec ceux qui les ont possédés et que peut-être nous les avaient donnés de leur vivant ou que nous avons souhaité conserver après leur mort. Alors, je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore eu ce livre entre les mains, mais je pense qu'il est absolument... Véronique m'a dit que les photos étaient très belles, et je pense que le texte doit être très intéressant à lire. Alors, ces objets m'amènent aujourd'hui à vous parler d'un tableau qui a fait l'objet de nombreuses analyses, notamment par Heidegger en 1936, plus loin par Derrida. Il s'agit en fait des souliers de Vincent Van Gogh. Van Gogh a peint plusieurs tableaux représentant des souliers. Et en fait, celui dont je souhaite vous parler a été réalisé quand il est venu vivre à Montmartre. Il l'a peint en 1886, il avait 33 ans. Donc là, c'est le moment où vraiment il avait décidé qu'il ne serait pas pasteur comme son père. Et c'était 4 ans avant qu'il ne meure à Auvers-sur-Oise. Alors, j'ai pensé à ce tableau aussi parce que j'ai eu la chance de voir la magnifique exposition que le musée d'Orsay consacre aux toiles que Vincent Van Gogh a peintes quand il était à Auvers-sur-Oise. Pardon. Et qui ont vraiment tout en commun d'être d'une luminosité absolument incroyable. Vraiment, quand on se promène dans les salles, on aurait presque besoin par moment d'avoir des lunettes de soleil, tellement tout est lumineux, tellement tout est plein de vie et de soleil. Alors cette toile, vous la connaissez certainement, elle est vraiment, c'est une toile extrêmement connue, hein, on a vu beaucoup de reproductions, Donc en fait, elle représente deux souliers côte à côte. Ce sont de vieux souliers, avachis, délacés. On voit que le cuir est tanné. Ils sont posés sur un sol. Donc on imagine peut-être voilà, une pièce, une chambre. Tout est dans des tons de brun. Donc c'est ces deux pauvres chaussures, pauvres souliers qui sont là, comme abandonnés sur ce sol. Et en fait, Vincent Van Gogh, pour réaliser cette peinture, est allé acheter aux puces cette paire de souliers. Il a trouvé de la boue, ça ne devait pas être très difficile à Montmartre à l'époque, et il a enduit consciencieusement les souliers pour leur donner ce côté fatigué et leur redonner certainement une dimension campagnarde. D'ailleurs, c'est ce que dit Heidegger hein, dans son texte, que je vais vous lire parce que peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Alors ce texte, lui, il est écrit en 1936. En fait, c'est l'origine de l'œuvre d'art et il est tiré en fait des chemins qui ne mènent nulle part. Alors là, c'est pareil, hein, ce texte est très connu comme l'est la peinture de Vincent Van Gogh. Donc, c'est un extrait parce qu'il est assez long. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Il est assez long et comme souvent la pensée d'Heidegger, après ça devient difficile de saisir ce que le philosophe a voulu nous faire comprendre. Prenons un produit connu, une paire de souliers de paysan. Pour les décrire, point n'est besoin de les avoir sous les yeux, tout le monde en connaît. Mais comme il y va d'une description directe, il peut sembler bon de faciliter la vision sensible. Il suffit pour cela d'une illustration. Nous choisissons à cet effet un célèbre tableau de Van Gogh qui a souvent peint de telles chaussures. Mais qu'y a-t-il là à voir? D'après la toile de Van Gogh, nous ne pouvons même pas établir où se trouvent ses souliers. Autour de cette paire de souliers de paysan, il n'y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place. Rien qu'un espace vague. Même pas une motte de terre provenant du champ ou du sentier, ce qui pourrait au moins indiquer leur usage. Une paire de souliers de paysan, et rien de plus. Et pourtant, dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par l'artère grasse et humide. Par-dessous les semelles s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. À travers ses chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre et il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même. Tout cela, peut-être que nous ne le lisons que sur les souliers du tableau. La paysanne, par contre, porte tout simplement les souliers. Mais ce « tout simplement » est-il si simple? Quand tard au soir, la paysanne bien fatiguée met de côté ses chaussures, quand chaque matin à l'aube elle les cherche, ou quand au jour de repos elle passe à côté d'elle, elle sait tout cela, sans qu'elle ait besoin d'observer ou de considérer quoi que ce soit. Nous n'avons rien fait que de nous mettre en présence du tableau de Van Gogh. C'est lui qui a parlé. Dans la proximité de l'œuvre, nous avons soudainement été ailleurs que là où nous avons coutume d'être. L'œuvre d'art a fait savoir ce qu'est en vérité la paire de souliers. Donc ça, c'est le texte de Heidegger. Et ce qui est intéressant, c'est que Heidegger a voulu voir finalement, a voulu se dire que ces souliers appartenaient non pas à un paysan, à une paysanne. Et quant à Derrida, lui, il a eu une autre approche de cette paire de chaussures. En fait, pour lui, il s'agit de souliers dépareillés, en fait, de pied gauche. Et il s'est dit que peut-être en fait le peintre avait voulu représenter eh bien son frère et lui, côte à côte, unis dans la vie par cette complicité si forte. Donc ça, c'est vraiment une interprétation de Jacques Derrida. Moi, je dois dire que j'avais jamais fait attention à ce que ça pouvait être une paire dépareillée. Et en fait, cette paire de chaussures, elle m'a rappelé eh bien, une autre paire de chaussures qui est tirée d'un conte absolument adorable que j'ai lu plusieurs fois à nos enfants et qui s'appelle « La paire de chaussures amoureuses ». Et c'est un texte de Pierre Gripari. Et dans ce texte, il raconte eh bien, comment deux chaussures vieillissantes, abîmées, refusent qu'on les sépare et réussissent à se retrouver. C'est vraiment une très très jolie histoire pleine de poésie. Alors pour revenir eh bien, à ce tableau, c'est vrai que quand on regarde ces souliers, peu importe hein, qu'ils soient dépareillés ou pas, tout de suite, on ressent plein de choses. Il y a beaucoup d'émotions à la vue de ces vieux souliers défraîchis. Même si Van Gogh s'est amusé à leur donner ce côté sale en les frottant avec de la boue. C'est vrai que les chaussures, peut-être plus que d'autres objets, d'autres vêtements, racontent en fait la personne qui les porte. Le poids des journées, le travail, le fait qu'on ait ou pas des moyens financiers. Il y a vraiment plein de choses. Alors moi, dans mon cabinet, je conserve précieusement maintenant eh bien, la paire de chaussures qui nous a accompagnés pendant les 13 mois où nous avons voyagé aux quatre coins du globe avec notre sac à dos. Et récemment, j'ai ajouté un objet qui m'a accompagné lui aussi pendant de très 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 longues années. C'est un sac à dos. Alors c'est mon mari qui me l'avait offert. Je ne me souviens plus très bien si c'était pour mon anniversaire ou pour la fête des mères ou pour Noël. C'est un sac à dos tout simple dans un cuir neutre qui, avec des lacets, voilà, on peut le fermer. Il y avait une boucle aussi pour le fermer une deuxième fois, une petite poche à l'extérieur, des petites poches à l'intérieur. Et ce sac à dos, quand je le regarde, alors pour moi, il est très évocateur. Pour une autre personne, il le serait certainement beaucoup moins. Eh bien, il me raconte la petite enfance, l'enfance des enfants. Il est déformé parce que pendant des années, j'y ai mis des bouteilles d'eau, des goûters, des jeux, des coloriages, des livres. Quand nous avons tous été nous faire vacciner contre le vaccin H1N1, par une nuit sombre, on était dans cette file d'attente. Et j'étais avec nous, nous étions avec nos trois enfants et j'avais dans ce sac une histoire de sorcière avec des pop-up. Et j'essayais de distraire notre petit garçon parce que l'attente était longue. Donc voilà, c'était un sac fourre-tout, un sac comme en ont souvent les femmes qui ont des enfants et qui était bien pratique. Et que j'ai continué à garder même quand les enfants étaient grands, qui n'avaient plus besoin que... Je pense à emporter pour eux une bouteille d'eau, des mouchoirs, un goûter. Et raconter tout ça, ce sac. Donc, j'en ai un autre maintenant, plus petit. Et le vieux sac, eh bien, il est dans mon cabinet, pas très loin de la paire de chaussures du voyage. Alors, les objets sont vraiment assez fascinants. Et en sophrologie, d'ailleurs, il y a un exercice que j'aime beaucoup qui a pour but, eh bien, de... suspendre les pensées. Il consiste à demander à une personne de laisser venir dans son esprit un objet. Alors, on précise que cet objet doit être neutre. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'affect par rapport à l'objet. S'il s'abîme, si on doit le changer, on le fait sans état d'âme. Alors, les gens sont souvent surpris parce que, alors, il peut y avoir plusieurs objets qui s'invitent. Parfois, il y a un objet tout de suite qui est d'autorité et là. Et ça peut être assez rigolo parce qu'on ne s'attend pas à cet objet. Et ensuite, une fois que l'objet est là, on doit se concentrer sur lui, donc les yeux fermés, et se dire que c'est la première fois qu'on rencontre l'objet. Comme c'est la première fois, bien sûr, on est plein de curiosité à l'égard de cet objet, donc on prend le temps de l'observer dans ses détails. On le prend dans ses mains, bien sûr, quand c'est possible, parce qu'il y a des objets qui sont trop volumineux pour être manipulés. Et à ce moment-là, simplement, avec les mains, on touche l'objet, comme on aimerait tous pouvoir le faire dans les musées s'agissant de la sculpture, pour mieux la ressentir. Et puis, je demande aux personnes qui viennent me voir de faire une chose qui parfois les déconcerte, c'est de sentir l'objet, parce que, en réalité, tous les objets, ou presque, du quotidien ont une odeur. On ne le sait pas parce qu'on ne les sent plus. Les enfants, les petits le savent. Quand vous donnez un objet à un petit enfant, eh bien, il le touche, il peut le jeter pour voir comment il rebondit, il va le sentir, il va même le mettre dans sa bouche. Voilà, donc ça c'est une chose qu'on fait en sophrologie avec les objets. Et en fait, j'avais très envie de vous donner à lire les paroles d'une chanson que j'ai découverte en regardant un peu comment j'allais construire cet épisode autour des souliers de Van Gogh. Et bien en fait, ça s'appelle « Les souliers » et c'est une chanson de Guy Béard. Alors je ne sais pas quand Guy Béard la chantait, je pense que c'est lui qui a composé le texte. Alors je n'ai pas écouté la chanson, je le ferai, mais je trouve que le texte est très très beau. « Dans la neige, il y avait deux souliers. Dans la neige, qui était oublié. Passe un homme qui marche à grands pas. Passe un homme qui ne les voit pas. Le deuxième, dans la nuit glacée, le deuxième glisse, il est pressé. Le troisième met le pied dessus. Le troisième n'a rien aperçu. Dans la neige, il y avait deux souliers. Dans la neige qui était oublié. Une femme qui regarde mieux, garde mieux. Une femme ne croit pas ses yeux. Le prochain dit « Ils sont trop petits ». Le prochain trop vite est reparti. Combien d'hommes qui passent sans voir, combien d'hommes qui n'ont pas d'espoir. Quelle chance, je suis arrivée, et quelle chance, je les ai trouvés. J'ai couru nu-pied, tant de chemin, j'ai couru. Je les prends dans ma main, je les chauffe, ils sont encore froids. Je les chauffe en les gardant sur moi. Ô miracle, les petits souliers, ô miracle, sont juste à mon pied. Dans la neige, il m'était promis. Dans la neige, je cherche une amie. » Alors je trouve que ce texte est très joli et il nous invite à l'observation de ce qui nous entoure. Et ça, c'est tellement important. Je ne suis pas spécialement une adepte de la méditation. En revanche, dans la mesure du possible, je m'efforce de contempler. Alors par exemple, là, eh bien, il me suffit de me tourner et mon regard va en direction de la fenêtre qui donne sur le plateau. Et toute la journée, eh bien, je prends des petits moments pour constater que la lumière a changé, que la couleur du ciel est différente, que le champ lui aussi évolue. Et ce matin, comme quasiment tous les matins, en se promenant, nous avons vu des chevreuils. Et c'était vraiment, c'est ce que je disais au tout début, vraiment amusant de les voir jouer comme des enfants, se courir après, se retrouver avant de disparaître. Alors les objets peuvent nous raconter toutes sortes d'histoires. J'imagine que vous avez certainement autour de vous des objets d'affection, pas des objets neutres, bien sûr, on est essentiellement entouré d'objets neutres, mais des objets d'affection qui vous racontent ou qui racontent aussi ce que vous aimez, qui vous les ont donnés, ceux qui vous les ont donnés aussi et qui ne sont plus là. Alors sur ce tableau de Vincent Van Gogh, sur ces explications qu'Heidegger et Derrida ont pu fournir, et sur ces très belles paroles de cette chanson de Guy Béard, je vais vous souhaiter une belle après-midi, une belle fin de semaine, une belle soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.